non, non. Là, ce que je vous expose, là, c'est l'heure et demie avant qu'on arrive en onde que mes collègues doivent subir. Ça, c'est du grand Nathan Meilleur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, salut. Très content d'être avec vous en remplacement d'Yannick Marceau dans Marceau le matin, déjà depuis une semaine et demie à Boulevard 102.1. C'est que moi, des fois, c'est ça, il y a des fils qui se touchent dans mon cerveau. Puis là, Alex Laramé est assis devant moi, très professionnel, en train d'écrire ses nouvelles. Puis là, à un moment donné, il y a juste un Nathan qui va se lever pour aller se faire un café, puis va faire comme... Mais c'était juste ça.
Mais moi, j'adore ça.
Ça amène une belle énergie.
J'ai comme des intermèdes de Watatatao dans ma tête. Vous souvenez-vous des intermèdes de Watatatao? Puis là, on était rendu au spot. Il y avait tout le temps des trucs de guide demain. Vous vous souvenez de ça?
Oui, mais... Il est à perfectionner, t'es presque dessus.
Mais je suis pas loin avec le wah-wah.
T'es vraiment pas loin.
Ça arrive. C'est mon cerveau. Demain,
ça m'a fait triper.
Il y a des petits sparkles, là, des fois.
Puis, t'as aussi les intermèdes de Ramdam. Ça, c'est pour les plus jeunes. Les moments où tu te parles tout seul. Devant la caméra.
Ah oui.
Là, il y avait comme la scène. Là. Fait que là, t'avais tous les protagonistes qui jasent là, dans l'émission. Puis à un moment donné, dans Ramdam, qui est une émission jeunesse qui a énormément pogné, ben, le comédien se retournait vers la caméra et disait... Et puis là, à ce moment-là, moi, je filais vraiment pas, là, mais en tout cas, plus ça retournait dans
le... Là, il parlait au public, il brisait ce qu'on appelle le quatrième mur au théâtre, pas ça à la télé, mais des apartés, je crois qu'on appelle ça.
Ben, écoute, ça fitrait.
Je pense que c'est des apartés qu'on appelle ça, de se tourner et de regarder vers la caméra. Ne pas confondre avec attardé. Moi, c'est plus ça, un petit peu.
Ouais,
un petit peu attardé.
C'est pas la même chose.
Mais ça, c'est des apartés. C'est pas la même affaire. Bref, tout ça pour dire qu'on est bien content d'être là pour vous accompagner le matin. L'objectif, trouver l'équilibre dans tout ça. Vous présenter l'actualité, que vous soyez bien informé, que vous soyez au fait de ce qui se passe dans votre ville avec un brin de divertissement, un petit quelque chose de décontracté aussi à travers tout ça. On reçoit des invités, évidemment, à différents moments dans l'émission. Ça sera le cas dans quelques instants. Noémie Cloutier, qui est proche aidante de son conjoint Nicolas Bergeron, qui va être en studio avec nous pour nous parler de la réalité d'être proche aidant, à quel point... ce n'est pas une décision, du moins pas tout le temps, et à quel point on n'en parle peut-être pas assez de la réalité de ces gens-là. Du moins, ça va faire les manchettes, des fois ça va faire la une pendant un certain temps, mais la mémoire étant ce qu'elle est, on oublie rapidement puis on passe à un autre dossier. Bref, très hâte d'avoir la chance de discuter avec elle et avec les collègues. Ça va se passer dans quelques instants. Mais là, on doit faire un tour de l'actualité, ce qui retient l'attention en ce 29 juillet avec Alex Laramé.
Les news 102.1.
Santé Québec se donne tout un objectif. Ce matin, on espère pouvoir réduire la liste d'attente en chirurgie de moitié dans les prochains mois. Et tout ça sans même avoir besoin de transférer des patients vers des cliniques privées. Dans la majorité des cas, c'est ce qu'on apprend. Faut savoir que 3641 personnes là, au Québec sont présentement en attente pour une chirurgie depuis plus d'un an. Mais selon les évaluations de Santé Québec, il y a seulement 300 personnes là, qui devraient être transférées dans des cliniques privées. Faut savoir que depuis décembre 2025, le gouvernement du Québec a passé un nouveau règlement là, pour que les patients justement qui attendent depuis plus d'un an une chirurgie soit transféré vers le privé au coût de l'État. Mais Santé Québec a confirmé qu'on a mis deux choses en place là, pour éviter d'avoir recours à ce nouveau règlement, cette nouvelle loi. La première mesure, c'est qu'on a complètement revu la gestion des horaires des salles d'opération pour prioriser les interventions qui vont avoir de l'impact là, sur la liste d'attente, notamment en orthopédie et tout ce qui touche à la plastie. Les demandes sont très grandes de ces deux côtés-là. Et l'autre option, bien, c'est qu'on va offrir aux patients dont les demandes sont à risque de devenir hors délai d'être opérées, mais dans des hôpitaux voisins. Donc, on vous demanderait d'aller juste un petit peu plus loin. Ça se passe surtout en région, là, d'aller peut-être dans un hôpital à quelques kilomètres, dans une autre ville proche, bref, pour vous passer avant le délai de 12 mois. Santé Québec s'apprête d'ailleurs à investir 100 millions de dollars dans un plan de reprise chirurgicale pour arriver à justement réduire les listes d'attente au niveau des chirurgies.
Tu vois, on a reçu un texto il y a une heure environ à ce sujet-là, justement. Tu sais, il y a deux mois environ, je me suis fait opérer à Thetford Mines après un an d'attente à Lévis, car mon médecin partageait son temps entre Lévis et Thetford. Fait que ça fait partie peut-être des
c'est un exemple.
Des solutions aussi, c'est ça. T'sais, si le médecin est à deux endroits, ben, est-ce qu'il y a une salle qui est disponible à l'autre hôpital, puis est-ce que vous êtes prêt et en mesure de faire la route aussi, tu sais, pour les traitements oncologiques, entre autres, parce que je fais un pont parce qu'on va en parler avec Noémie dans quelques instants, mais ça aussi, des fois, tu sais, les gens sont appelés de partir de région pour s'approcher des grands centres du côté de Québec pour faciliter les soins. Fait que si on peut réduire les délais d'attente avec cette stratégie-là, effectivement, ça peut être intéressant de le mettre en place. Bon, maintenant, ça reste Santé Québec. Ça va être de voir si les bottines suivent les babines, comme on dit.
Oui, exactement. On a également le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, qui va sortir de ses vacances aujourd'hui. Il devrait présenter 4 engagements pour contrer les nouveaux tarifs annoncés par le président Trump. C'est TVA Nouvelles qui a eu vent de cette sortie. On n'a pas encore tous les détails, mais en gros, on proposerait de tendre la main au gouvernement américain pour rebâtir les alliances avec nos voisins du Sud.
Et, ça, c'est un point de presse, Alex?
Ouais.
J'ai hâte de voir la période de questions aussi parce que les journalistes ne vont pas se contenter de l'annonce qui a été choisie par le Parti libéral. Puis Charles Milliard n'est pas sorti depuis le début de l'été ou presque, là. Ça veut dire que tout s'est accumulé puis il va y avoir du requin qui ont faim, là.
La première question que je lui poserais,
vas-y.
Savez-vous c'est quoi?
Oh non, j'ai peur.
Ouais, ah
non?
Aussi.
Finalement, avez-vous pris votre décision? Allez-vous poursuivre le PQ?
Ah! Ben ça, honnêtement, c'est un dossier qui est mort, là, je veux dire.
Mais
on reviendra pas là-dessus.
Il
on veut
est
pas
quand même jamais revenu là-dessus.
Ouais. Ben non, mais...
Puis quand tu dis on est en période de réflexion, à un moment donné, tu reviens pour dire on a fini de réfléchir, puis on n'ira pas. Tu sais, on n'ira pas, pantoute, du moins. Et puis j'ai hâte de voir aussi s'il va faire son point de presse dans les deux langues officielles. Ça va être bien important de suivre ça aussi de très, très près, quand même.
Ouais, c'est une blague, évidemment, de Nathan. On se rappelle qu'au Québec, il y a une seule langue officielle. Et c'est le français. Faut quand même rétablir le fait.
T'es tellement professionnel.
Ça, c'est notre Alex.
Ah oui, bravo, bravo.
Non, mais faut pas que les gens soient mélangés.
On peut pas plus t'aimer.
Ah oui, c'est parfait.
Donc, on va revenir à Charles Milliard. Là, ce qu'il va vraiment annoncer aujourd'hui, c'est que le Québec doit reprendre un rôle plus actif au sein de la Fédération canadienne, renforcer son influence, développer davantage d'alliances et mieux défendre les intérêts des travailleurs et des entreprises. Bref, Charles Milliard devrait annoncer ça aujourd'hui et évidemment qu'il va avoir quelques questions, peut-être notamment sur certains candidats qui ont été écartés. Dans la région de Québec, il y a une serveuse de bar qui a été congédiée par Texto qui vient d'avoir gain de cause sur son ex-employeur. La femme travaillait au bar 447, situé sur la 4e avenue dans Charlebourg. Et il y a des nouveaux propriétaires qui achètent l'établissement en 2025. Au début, elle se fait dire que rien va changer, on garde la même formule. Elle va rester en poste, oui. Mais quelques mois plus tard, accrochage avec une collègue lors d'une soirée. Puis le lendemain, elle reçoit un texto de son nouvel employeur qui dit « Pas besoin de rentrer demain, j'ai plus besoin, c'est terminé. » L'employé demande certaines explications. Puis le propriétaire précise simplement « C'est fini, nous deux, hier, t'as pas été correct et j'ai pas besoin de ça. » Pas plus d'explications que ça. Donc la femme décide de se présenter au bar, essaie d'avoir justement plus d'explications, mais le patron refuse de se justifier. Elle se tourne donc vers le tribunal administratif du travail, porte plainte. Et quelques mois plus tard, le tribunal décide que c'est un congédiement illégal. Et on mentionne notamment qu'il incombait à l'employeur d'établir l'existence d'une cause juste et justifiant la fin de l'emploi. Et ce qui n'a pas été fait, donc le tribunal administratif du travail, accorde à Mme Veilleux, c'est la femme qui a été congédiée, 5 000 à titre d'indemnité pour la perte salariale, ainsi que 5 000 en dommages moraux. Donc sachez que si jamais vous faites congédier sans raison valable par texto, eh bien, vous pouvez avoir recours contre votre employeur. Autre histoire que j'ai lue sur Radio-Canada, une histoire complètement terrible. On parlait avec la FADOC, une dame de 95 ans qui vient d'obtenir réparation devant le tribunal administratif de la personne. C'est qu'elle s'est fait dérober pas moins de 115 000 $ par sa propre fille et sa petite-fille. On est en 2019. C'est Pierrette Touin. Elle s'est d'abord fait voler de l'argent par sa petite-fille Amélie. Et c'est là que sa fille rentre en ligne de compte. Elle décide de reprendre les finances de sa mère. Mais elle n'était plus en contact avec sa mère depuis 5 ans. Mais bref, revient dans le portrait, prend les contrôles complets des finances de la dame de 89 ans à l'époque. Elle lui enlève même sa carte de débit. Elle la sort de sa RPA, l'accueille chez elle, mais la grand-mère doit au final payer 1200 $ à sa mère pour rejeter chez sa fille. Puis selon ce qu'on lit sur Radio-Canada, elle était maltraitée là, à cet endroit-là par sa fille et son conjoint. Pas beaucoup de services, était beaucoup mieux à sa RPA. La pauvre dame veut quitter l'endroit. Finalement, elle se fait menacer par sa fille. Donc, histoire complètement terrible. Finalement, comment ça finit? C'est que la femme, Pierrette Thouin, décide de se réfugier chez une amie. Et là, elle se rend compte justement que ben, sa mère a dilapidé vraiment toutes ses économies, a volé complètement son argent. Mais finalement, justice au moins pour cette dame de 95 ans là, qui devrait recevoir là, un intégral de 104 000 $ évidemment, si l'argent existe encore. Là, c'est sa propre fille qui devra donc rembourser ce montant-là.
Mais quelle histoire
ça, c'est
tragique. Ça, c'est de la misère. Là. Cette pauvre femme-là.
Ça, c'est de la malveillance à l'état pur.
Je serais mieux en RPA, rendu là en CHSLD, à manger patates dans le vieux liquide saucé d'une semaine.
Tu sais... Comment tu peux faire ça à un membre de ta famille?
Ça, je le sais pas. Je sais pas si tu peux,
à n'importe quelle personne âgée, mais tu sais, où est-ce que c'est ça, peut-être, le détail, l'info qu'on n'a pas? Tu sais, t'amènes quand même un bon point, Pascal, de tu sais, c'était-tu vraiment une mauvaise mère? Je sais pas. Tu sais, elle était vraiment pas fine. Il y a eu de la violence, peut-être. Il y a eu des. Mais même à ça. Si c'est ça...
Le recours, c'est pas de voler ta mère
ben
si t'es,
non.
T'es
non.
maltraité par voilà. elle. S'il y a vraiment une maltraitance, tu vas porter plainte. Si jamais il y a vraiment des actes criminels, c'est la chose à faire. Mais
ce n'est pas le recours.
Un là, mal ne justifie ça. Pas un autre.
C'est une vengeance à ce moment-là.
Ouais, si c'est le cas, là, on le sait pas dans ce
non,
cas-ci.
Non, c'est ça. Hey, on spécule on à 100%. Extrapole, on spécule, on extrapole vraiment.
C'est tellement invraisemblable dans notre tête qu'on essaie de se l'expliquer parce que tu te dis
que
c'est inhumain.
Ben, il y a un vide, là. Puis l'humain a horreur du vide. Fait qu'on essaye de le combler, ce vide-là, en se disant, ben, c'est-tu parce que la madame, à la base, était pas fine, mais on n'a pas du tout cette info-là. Donc, effectivement, important, Alex, de le rappeler que pour l'instant, ce qu'on a comme info, c'est que la fille et la petite fille ont volé la grand-mère, finalement. Mais à quel moment, dans ta tête, la switch tourne à on, puis tu fais comme, mais quelle excellente idée.
Hey, t'sais.
C'est ça qu'on va faire. On va siphonner à grand-mère.
Et
let's
je m'en
go.
Fous. Et je m'en fous. On va... Tu t'en fous, moi aussi, je m'en fous. Parfait, on se tient, let's go. Voyons.
Ça, c'est... Puis ça, malheureusement, c'est le genre de cause. On en parle aujourd'hui. Ça va se taire, ça va s'étouffer. On n'en entendra pas parler pendant des mois. Peut-être quand le verdict va sortir finalement, espérons-le. Mais tu sais, c'est le genre de cause qu'on devrait médiatiser puis suivre de près... davantage parce qu'on est face à une population vieillissante. Puis je parlais de la pointe de l'iceberg tantôt. D'après moi, il y en a pas mal plus qu'on pense. Des personnes âgées qui se font abuser financièrement là, par des membres de leur famille, malheureusement, puis ils sont pas prêts ou prêtes à porter plainte parce que ben, c'est un
c'est
bon
ta
gars.
Fille, c'est ton fils.
Tu sais, Alex a toujours été un bon petit-fils pour moi. Puis tu sais, quand il me demande... Tu sais, il y a des pubs de tout ça à la télé. Tu sais, quand ouais. il me demande de l'argent, ben quand il me demande ma carte de débit, je pense que c'est pour aller faire mon épicerie. Je pense pas vraiment qu'il dépense plus d'argent que ça. Mais là, avant, il venait une fois par semaine. Là, il est rendu qu'il vient deux fois par semaine pour faire l'épicerie. Là, maintenant, il me demande ma carte de crédit aussi. Tu sais, il y a des doutes qui se créent, mais c'est ça parce que c'est des membres de la famille. T'oses pas trop te prononcer puis mettre personne dans la merde. Mais tu sais, c'est juste que je comprends pas.
Ça, les changements de testament... quand t'es une personne qui est en situation d'Alzheimer tranquillement, tu sais, au début, j'entends tellement d'histoires d'horreur, des vols de papier, de ci, de ça dans des maisons pendant que la personne aînée, elle est malade, puis les enfants vont s'en occuper, puis en profitent pour prendre des objets sur place, des affaires. C'est épouvantable.
Ouais, c'est des personnes qui sont vulnérables, donc
ben oui.
D'abuser
ben oui.
de ça. Tu sais, comme tu le dis, certaines. Personnes qui sont en dégénérescence cognitive ou quoi que ce soit, de profiter de tout ça, c'est je pense pas qu'on peut aller vraiment plus bas là, en termes d'actes. Ouais, c'est difficile.
C'est très, très tough.
Deux petites nouvelles quand même un petit peu plus joyeuses, si on peut dire. Là.
ça va être facile.
La ministre de l'Immigration annonce qu'à partir de maintenant, le renouvellement en ligne du passeport est maintenant accessible à tous les adultes canadiens. Pour être admissible, il faut quand même avoir une adresse au Canada, avoir plus de 16 ans lors de l'obtention du dernier passeport et de l'avoir reçu là, au cours des 15 dernières années. Donc, sachez que vous pouvez maintenant faire votre renouvellement de passeport en ligne et c'est disponible pour tous les Canadiens. Et on a également les avis en ligne. Hein, je sais pas si vous êtes habitué, vous, là, vous magasinez quelque chose en ligne et vous regardez les avis, là, les commentaires de personnes qui disent « Ah, c'est un super bon produit, c'est un mauvais produit. » Eh bien, on apprend ce matin que la majorité, en fait, un avis sur trois environ, sont faux sur les plateformes en ligne. On regarde du côté d'Amazon, qui est évidemment la plus grande plateforme. Plusieurs sources le font état de 43% de faux avis. Donc, on est même au-dessus là, du 1 sur 3. Même si Amazon dit que 99% des avis sont vrais, eh bien, en 2023, on a effacé 200 millions là, sur la plateforme d'avis qui sont tout simplement faux. Il y a une étude aussi de la compagnie Crédit Capital One qui évalue que chaque personne dépense en moyenne 125$ par année sur des produits en se fiant à des avis qui sont vraiment créés de toutes pièces. Puis c'est vraiment une grosse business. Là. La Federal Trade Commission aux États-Unis a trouvé qu'au moins un commerçant, on donne un exemple, un commerçant a enregistré des ventes de plus de 5 millions de dollars après avoir acheté 250 000 de faux avis. Donc les compagnies paient justement pour créer des faux avis, puis ça leur rapporte parce que les gens se fient à ça puis achètent plus de leurs produits. Ça aurait augmenté les ventes de 12,5% dans les deux premières semaines. Donc des fois, c'est bon de se fier aux avis, mais pas tout le temps parce qu'il y en a beaucoup qui sont faux. Donc, faites attention à ça si vous magasinez en ligne.
C'est fou pareil. Hein? 175$ en moyenne par individu, c'est assez...
Ouais, par année.
Par année, mais quand même, c'est assez impressionnant de voir à quel point ça peut fonctionner, ce genre de d'avis-là. Je ne sais pas vous si vous le vivez, mais tu sais, de plus en plus, moi, dans les différents commerces où je me rends, je vais recevoir souvent par infolettre par la suite un léger sondage et une demande d'aller déposer un avis sur Google, justement, parce que je pense que les entreprises locales ont à cœur le fait d'avoir de vrais avis sur leur plateforme, tu sais, sur Google, entre autres.
Ouais.
C'est important pour eux aussi. Puis à quel point, des fois, quand vous êtes fâché... Excusez-moi, j'avais une gestion de poils de moustache à faire. Vraiment désolé.
On a tout vu ça, nous autres.
On fait de la radio en direct. Quand vous allez, vous partez d'un endroit, d'un restaurant où vous êtes fâché puis vous faites un mauvais avis, à quel point ça peut faire mal à un commerçant parce que tout dépendamment, évidemment, le nombre d'avis total, à quel point le vôtre va peser dans la moyenne, ça peut avoir un impact qui est quand même vraiment important. Mais là, de savoir que ce sont carrément de faux avis qui nous font dépenser. Faites attention aussi, puis vérifiez peut-être. Faites une double vérification. C'est terminé pour les manchettes?
Yes.
On va enchaîner tout de suite avec notre invitée qui est en studio avec nous. Je vous la présente, Noémie Cloutier, qui est proche aidante de son conjoint Nicolas Bergeron. Bon matin.
Bonjour, merci de l'invitation.
Merci d'avoir accepté de venir nous voir. Ça fait un certain temps déjà que, personnellement, je vous suis sur les réseaux sociaux, ton conjoint et toi. Ta présence aujourd'hui vient d'un texte que tu as déposé sur ton blog et sur tes réseaux sociaux concernant la réalité des proches aidants. Ce pourquoi je voulais qu'on te fasse une place dans l'émission aujourd'hui, parce que tu le mentionnes dans le texte, c'est beaucoup ce qui revient dans les commentaires de ce texte-là aussi, à quel point on n'en parle pas beaucoup, on n'en parle pas tant. Je pense qu'il y a quelque chose à la base qui est normal. Le spotlight est vers la personne qui est malade, évidemment. C'est de cette personne-là dont on s'inquiète. Mais pendant ce temps-là, ben, on oublie de regarder le proche aidant, la prochaine aidante du coin de l'œil. On oublie de demander à cette personne-là comment elle va aujourd'hui. Comment elle va depuis les 6 derniers mois? Est-ce que ça se maintient? Est-ce que c'est stable? Est-ce que c'est de tout ça dont j'ai envie qu'on discute avec toi ce matin? Mais je veux qu'on commence par le début.
Oui.
Tu es donc proche aidante de ton conjoint Nicolas qui est atteint d'un cancer. Oui. Quel est le cancer de Nicolas puis quelle est sa situation actuellement?
Ça s'appelle un cholangiocarcinome. En fait, c'est un cancer des voies biliaires, les tuyaux, en fait, qui vont relier le foie, un peu vésicule biliaire, avec pancréas, dans ce coin-là, qui a été diagnostiqué en octobre 2024, après 6 mois d'errance médicale. J'étais venue à la radio ici le soir avec lui, avec vos collègues, à l'émission du soir, pour... ça, c'est un autre sujet. Bref, lui, donc, quand il a été diagnostiqué, c'était un stade 4 métastatique. Puis le cholangiocarcinome, en fait, en ce moment, le seul espoir peut-être de dire de s'en remettre, d'espérer une rémission, c'est s'il y a une chirurgie qui est possible. Mais cette chirurgie-là est possible dans vraiment une très mince proportion des cas parce que c'est un cancer dont on parle peu, puis même qui ne sera pas vu, détecté facilement en première ligne aussi. Donc, c'est un peu là qu'on
se dit. C'est rare, donc, comme situation.
On dit rare. Bien, tu sais, c'est un mot... Là, moi, là, je me suis vraiment impliquée pour le cholangiocarcinome aussi. J'ai lu beaucoup, puis rare, ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas. C'est peut-être un cancer qui est moins populaire, on va dire comme ça, sur lequel il y a moins de fondations actives, tu sais, pour l'afficher. Mais autour de moi... Encore hier, je textais avec Raymond, qui va se reconnaître, qui a perdu son conjoint dans la quarantaine également en avril dernier, papa d'un petit garçon de 4 ans. Donc, il a perdu Joël d'un cholangiocarcinome comme Nicolas. J'ai mon amie Jannick également, une maman monoparentale dans la quarantaine qui présentement ben, se bat pour sa vie. Donc, rare dans le sens qu'il y a une moins grande prévalence, mais ne veut pas dire qu'il n'est pas présent.
C'est, ça, c'est important de souligner ce point-là parce que je l'ai appris moi aussi quand j'étais malade. Le terme « rare » ne veut pas dire, comme tu disais, qu'il n'est pas présent. Ce que ça veut dire, c'est que parfois, il y a moins de cas, ce qui fait en sorte qu'il y a moins de recherches, qui fait en sorte qu'il y a moins de littérature, ce qui fait en sorte qu'il y a moins de traitements disponibles. C'est la ligne chronologique du mot « rare » en oncologie, en cancérologie, ce qui fait en sorte que là, les options sont donc limitées. Oui. Actuellement pour Nicolas. On est quand même en soins, on est en traitement. Oui. Il est en traitement de chimiothérapie actuellement. Oui. Bon, je sais que le dernier traitement finalement a dû être retardé, repoussé à la fin de la période estivale potentiellement. On est donc en soins palliatifs en ce moment, comment on appelle ça?
Tu sais, en fait, dès que tu as un diagnostic comme ça, la chimiothérapie que tu reçois, c'est une chimiothérapie palliative.
Automatiquement. Okay?
Automatiquement. Ça. Là, comme tu le disais, tu sais, c'est des cancers qui sont plus rares, donc on a moins d'argent pour la recherche, ça va moins vite. Donc, c'est un peu comme si on attaquait le cancer avec un tire-poids, avec des molécules qui existent depuis les années 80 et qu'on donne à tout le monde. Mm-hmm. Dans le fond, c'est ça.
Ouais.
Le but, c'est pas de guérir personne. Le but, c'est pas de faire disparaître le cancer. C'est d'essayer de dire, est-ce qu'on peut le contenir un petit peu pour donner plus de temps à la personne?
C'est de retarder le processus.
Exactement. Okay. Donc là, lui, il a fait trois lignes de chimiothérapie qui sont les trois lignes standards. On a vu dernièrement que la troisième ligne ne répondait pas de façon exceptionnelle. Donc, on a rencontré l'oncologue hier. Puis, on a choisi de revenir avec une chimiothérapie qui avait été donnée au début pour voir si, en fait, là, il ne pourrait pas répondre puis avoir peut-être que la maladie se calme un petit peu. Il y a toujours des études cliniques, des essais cliniques, mais ça, il faut comprendre que, tu sais, quand on donne une étude clinique, c'est une étude clinique. On ne peut pas dire que ça va fonctionner. On va l'essayer avec toi. Puis, les critères de sélection sont extrêmement sévères. Puis là, en ce moment, ben, je ne réponds pas à un détail, mais dans son sang, il ne se qualifie pas pour avoir une étude clinique qui pourrait être prometteuse pour sa mutation génétique. Mais là, au stade où la maladie est, là, en date d'aujourd'hui, il ne se qualifie pas. Est-ce que la chimiothérapie qu'on va lui donner permettrait qu'il le soit? On verra, mais pour l'instant, c'est là qu'on
C'est ce qu'on essaie de faire. Donc, avec un tire-poids, on est dans l'essai-erreur.
Puis pour les soins palliatifs, c'est ça. Et il est également suivi en soins palliatifs pour tout ce qui est, évidemment, là, c'est une fin de vie. Là, puis la douleur, la gestion de la douleur. Mm-hmm. Il est sous des patchs de fentanyl. Il va avoir essayé tous les opioïdes possibles là, qui fonctionnent, oui.
As-tu l'impression d'avoir perdu ton conjoint, en quelque sorte?
Bien, je ne l'ai pas perdu parce qu'il est là, puis je veux qu'il soit là. C'est encore la même personne, mais c'est sûr que, tu sais, on t'arrache ta vie, là. Tu sais, Nicolas, c'est ça qu'il va dire, lui aussi. On nous a arraché notre vie d'un coup, là. Mm. Quand on est allé dans le bureau de l'oncologue, là, c'est violent, tabarouette, là. Mm. C'est violent, maudit.
La publicité, là, que le divan est c'est ça?
Même, c'est plus que ça, là. C'est violent. Puis, tu sais, je dis pas qu'il y a un cancer qui est pire que l'autre, mais quand on dit en plus, tu sais, lui, il avait 45 ans, il n'y a rien à faire, là.
Ben, t'sais,
c'est comme là, c'est... OK.
Écoute, t'sais? Moi, je vais me prononcer personnellement vas-y. Là-dessus, OK? Mais il n'y a pas un cancer qui est pire que l'autre. Je comprends ce que tu veux dire. J'ai eu un diagnostic de cancer à l'âge de 35 ans. J'ai eu un lymphome médiastin. Nous autres, notre chaise puis notre divan, on sacré le camp par en arrière. Mais rapidement, on nous a tendu la main, on nous a ramené puis on nous a dit, ça se guérit, cette affaire-là. Mm. On a des options devant nous. On peut pas te garantir que ça va guérir.
Non.
Mais on a des gens qui guérissent de ça. Quand on fait face à votre situation, là, c'est pas un divan qui sac quelqu'un. C'est un tsunami que tu reçois en pleine face.
Mais là, t'es au cœur de l'ouragan. Puis, tu sais, ça fait 2 ans qu'on est au cœur de l'ouragan, là. Tu sais, des bonnes nouvelles, là. Quand tu vas dans l'hôpital, il n'y en a pas des bonnes nouvelles. On finit par faire comme, oh, yeah, il y a eu une diminution de 2 millimètres, tu sais, supposons.
Oui.
Ah, parfait, tu n'as pas d'acide en ce moment.
Ah, oh, la souffrance, ça t'abrège un peu.
Ah, là, en ce moment, tu ne souffres pas. sais. Mais on le sait que les options s'effritent. Puis moi, ce qui m'a rendue malade cet hiver, j'ai passé un hiver, là, j'ai vraiment descendu plus bas que je pensais pas que je pouvais descendre plus bas. Tu sais, il y a eu différentes choses. Il y a des... on nous dit pas grand-chose, hein, aux proches aidants, tu sais, quand, je sais pas, peut-être que tu pourrais, Nathan, approuver ou même aux malades. Tu sais.
Ouais.
Tu sais, par exemple, Nicolas, pour la chimiothérapie, puis je sais qu'on le fait dans plusieurs chimiothérapies, on va administrer un médicament qui s'appelle le Décadron, tu sais, qui est une sorte de... cortisone.
C'est une cortisone, oui, c'est
ça. Même quand il y en a qui vont dire que c'est de la coke oncologique, là, dans le sens que ça booste. Il y a des personnes, moi, mon chum a marché 40, 50 km dans des journées de temps parce qu'il y avait le feu dans le derrière.
Avec ce médicament.
Mais c'est, je ne sais pas si c'est comme ça aussi pour Nicolas, mais c'est ça, c'est que tu vas prendre ça quelques jours suite à un traitement de chimiothérapie parce que justement, ça, le traitement est tellement fort que puis ça crée une inflammation. Oui. Donc, la cortisone est un anti-inflammatoire très, très puissant, mais effectivement, le Décadron, ça fait en sorte que là, ça décuple tes forces.
C'est un super héros, là.
Oui, c'est ça. Alors que t'es malade, puis tu viens de recevoir un traitement de chimiothérapie. Fait que moi, ça, j'ai vécu ça, j'ai ressenti ça. Tu sais, aller faire le sentier des loups tout seul au grand complet une journée dans le parc de la Jacques-Cartier alors que j'ai reçu mon traitement la veille, puis ma blonde me dit « Voyons, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça n'a pas de bon sens. »
C'est pas ça habituellement. Mais au moins, ça te donne un petit bonheur sur le coup, sauf que c'est pas un bonheur normal.
Oui, c'est ça. Puis aussi, dans le cas de Nicolas, comme il y avait en tout cas des métastases au péritoine, c'est un médicament qu'on utilise aussi pour prévenir les suboclusions intestinales. Donc, mais ce qu'on dit pas aux gens, puis j'ai su en parlant des proches aidants, c'est que pour la majorité des personnes aussi, ça joue sur la personnalité.
Mm-hmm.
Tu peux devenir irritable, impulsif. Il y a même des personnes qui vont devenir violentes. Là, qu'il y a des proches aidantes qui ont dû être placées en sécurité parce que là tu sais, lui, là, pète des plombs. Après ça, quand le médicament fait plus effet, comme, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Ça reste, c'est de la drogue, ces choses-là.
Puis on vous le dit pas.
Non, moi, je l'ai su sur le tas. Je l'ai su après, en fait. Fait que tu sais, tu vis ça, tu vis de l'angoisse, tu sais, parce que là, tu vois bien, là, tu sais, qu'on avance dans des lignes de chimiothérapie puis qu'il n'y a plus d'espoir. Moi, j'ai soupé avec des chercheurs qui travaillent, un chercheur, Mathieu Quesnel-Vallière, qui travaille sur un vaccin qui est super prometteur, qui travaille à l'Université de Sherbrooke. Tu sais, lui, là, dans le fond, il testerait direct sur des humains, là, pas sur des souris, là. Il prendrait, comme pour le cholangio, les cellules du cancer, puis ils peuvent l'administrer, puis ça pourrait avoir une super réponse, un peu comme les... Je sais pas si t'as eu de l'immunothérapie ou...
J'en ai pas eu d'immunothérapie.
C'est un peu comme le CAR-T qu'il y a, ou
le CAR-T-cell, qui est très, 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 très prometteur en ce moment. Puis là, c'est sûr qu'on rentre dans des détails un peu plus techniques pour les auditeurs qui nous écoutent, mais en même temps, bon, c'est sûr qu'on parle le même langage, je te comprends, c'est qu'on devient un peu...
expert, bon, qu'on parle un langage que personne d'autre comprenne.
On fait comme une simili-résidence de médecine pendant qu'on est là-dedans. Aussi, les CAR-T-cell. Puis, tu sais, je sais que les vaccins ARN messager qui ont été utilisés, entre autres, pendant la COVID, bien, c'est ça. L'ARN messager deviendrait potentiellement un outil excessivement important puis probablement très puissant contre le cancer. Mais là, je vais faire ma job de nous ramener.
Oui, vas-y, ramène-moi.
Dans le sens où est-ce que ça fait déjà 10 minutes qu'on parle du cancer, qu'on parle de Nicolas. C'est important de le faire parce qu'évidemment, c'est la base, l'explication de ta présence ici. Mais moi, je voulais qu'on parle de toi aujourd'hui. C'est de ça que je voulais qu'on parle. C'est ce que je voulais faire avec toi. Parce que là, tu es devenue aidante naturelle de Nicolas, mais... Tu n'as pas décidé de devenir son aidante naturelle. Puis ça, c'est important de l'expliquer puis de le mentionner aussi. Quand ce tsunami-là est arrivé, ça a été un choc immense et important pour toi aussi. Ta vie a sacré le camp.
Complètement.
Et là, tu as dû être en arrêt de travail. Tu as dû te mettre en arrêt de travail.
C'est tellement un choc, là. J'ai même pas de mots pour le décrire. Il faut le vivre pour le croire, tu sais. Là, il a fallu que j'ai... on m'a diagnostiqué un trouble anxieux... d'adaptation, dépressif avec des crises de panique. Là. Moi, j'ai vu tout ça. Là,
ben oui.
Cet hiver, on m'a racheté un deuxième antidépresseur parce que là, ça ne faisait pas. Il faut que je prenne des somnifères pour dormir.
Dû à ça tout va ça, pas. Là.
Ben oui, tu sais, ça fait 22 ans qu'on est ensemble. Puis là, tout d'un coup, pouf! Puis on se ramasse à l'hôpital, hospitalisé pendant 2 mois. Puis tu sais, dans un univers que tu comprends, que tu apprends sur le tas aussi. Puis on ne les accompagne pas, les proches aidants. Tu sais, on s'adresse à la personne qui est malade, puis c'est normal. C'est elle qui est malade, mais moi, il n'y a personne qui est venu me voir pour me dire comment ça allait aller, puis comment...
Bien, c'est drôle, c'était une de mes questions, justement, sur l'aide qu'on offre aux proches aidants. Oui. Ce que vous me dites, là, c'est qu'au final, il n'y a pas grand-chose.
Bien, il n'y a pas grand-chose. Il faut fouiller, il faut chercher. Il y a des organismes. À Québec, il y a l'OCPAC. Nicolas, c'est un ambassadeur. C'est l'OQPAC que ça s'appelle. Ouais. C'est pour les personnes atteintes de cancer et leurs proches. Il y a des groupes de soutien pour les proches aidants. Il y a Proche Onco également, quand on écrit Onco, O-N-K-O, qui a été parti par Chantal, qui est devenue comme un peu une amie par les réseaux sociaux, qui a vécu le cancer avec son conjoint, puis qu'elle s'est rendue compte qu'en oncologie, un soutien pour les proches aidants n'avait vraiment pas tant que ça. Donc ça, ce qui est bien avec Proche Onco aussi, c'est que c'est ouvert à la grandeur du Québec. En fait, ça se fait beaucoup par visioconférence à distance, des groupes de soutien avec des personnes. Donc,
C'est accessible.
C'est accessible.
Oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment bien.
Il y en a, mais tu sais, il faut aller les chercher. Puis dans, au CIC, par exemple, au Centre de cancérologie, tu sais, il y en a des groupes spirituels, des choses comme ça, mais tu sais, on s'entend que...
Ça manque un peu.
Ça manque pas mal.
Ben c'est ça. Puis en même temps, c'est que pour l'avoir essayé aussi, les différents services du CIC, c'est que des fois... Comment je le décrirais? Ils font un travail extraordinaire, là, comprenons-nous bien. Mais des fois, c'est que ça peut être lourd aussi.
Oui.
Des fois, c'est que tu te retrouves dans une situation où c'est pas de ça dont tu as besoin,
exact,
comme soutien en ce moment, parce que c'est très, très axé sur le cancer et la maladie.
Ouais.
Alors que ce que je comprends aussi, c'est qu'une réalité comme la tienne fait en sorte que ça dépend vraiment sur quel spécialiste tu vas tomber.
Oui.
Il y a des spécialistes qui vont s'adresser au couple, qui,
absolument,
vont s'adresser à la proche aidante, mais il y en a malheureusement parfois qui vont s'adresser seulement à, dans ce cas-ci, Nicolas.
Souvent.
Et là, toi, tu n'as pas toutes les infos, tu n'as pas tous les détails, ouais, et Nicolas n'est pas dans un état,
exact,
physique et mental pour tout retenir l'information nécessairement. Puis ça, c'est un des points que tu amènes dans ton,
oui,
texte, du fait que tu es passée de conjointe à adjointe,
oui,
administrative,
gestionnaire.
Puis je trouve que dans cette partie-là, déjà, c'est très lourd, c'est très,
oui,
pesant, mais ça l'est encore plus quand tu es obligé de te battre puis de convaincre les spécialistes de
«
mais c'est moi qui s'en occupe, c'est moi qui dois prendre
le
rendez-vous. »
Je sais qu'il
faut
tel médicament.
Ben oui, non, mais madame, faut que votre conjoint nous rappelle,
exact,
c'est juste lui qui peut prendre,
oui,
le rendez-vous. Oui, mais il n'est pas capable, ça fait 3 jours qu'il dort parce qu'il y a ses patchs de fentanyl puis il est à terre complètement. La reconnaissance des proches aidants, de ce que je comprends en lisant ton texte puis en regardant les commentaires puis les réactions, dans le service médical, dans les soins médicaux, il y a encore beaucoup de travail à faire.
Je pense que,
hein,
oui. Il y a beaucoup de travail à faire. J'ose espérer que ça va aller en s'améliorant, mais tu sais, il y a des volontés toujours du système aussi. Tu sais, c'est une question d'argent, système de santé, etc. Mais je pense que les proches aidants, c'est un atout pour le système de santé. Tu sais, on peut leur sauver,
okay, oui,
des étapes. Puis, tu sais, dire, on est les spécialistes de la maladie de notre conjoint, conjointe ou parent ou frère, sœur, tu sais.
Bien...
On est ceux qui sont aux premières loges. Donc, est-ce qu'on peut être impliqué? On pourrait travailler en équipe aussi.
Ouais.
Puis, comme tu as dit, gestionnaire, moi, dans les commentaires, justement, sur Facebook, parce qu'on s'affiche sur Facebook, tu sais, c'est vraiment ce qui ressortait beaucoup, là, hypervigilance, tout le temps.
Ouais. 24-7.
24-7.
Ouais.
Charge mentale.
Ouais.
Charge émotionnelle,
ouais,
la solitude, l'impression qu'il n'y a personne, tu sais, vraiment qui comprend, tu sais, tout ça, c'est répandu, là, tu sais, c'est comme que de ça, tu sais, c'est triste.
Parce que le follow spot, l'éclairage est sur l'individu,
ben,
qui,
oui,
est malade.
C'est normal en même temps, mais tu sais...
C'est normal, mais en même temps, je pense que c'est normal, c'est bien qu'on en parle aujourd'hui,
oui,
aussi. Si ça peut faire avancer les choses un peu. Tu en as parlé du 24-7, de lire des commentaires de gens qui écrivent de, tu sais... quand tu pars en vacances, faut que tu penses à un plan B. Tu sais,
qui peut me remplacer?
On est frère et sœur, Pascal, dans la vie, puis on s'occupe de notre père qui est malade. Mais là, ça donne que cette année, c'est de même, notre employeur nous a donné nos vacances en même temps. Là, les deux, on part en même temps. Shit, on fait quoi?
On part-tu? Il y en a un qui ira peut-être pas.
Il y en a-tu un qui reste? On n'a pas le choix. Y a-tu quelqu'un d'autre qui peut nous aider, nous supporter?
Papa, vas-tu accepter que ce soit quelqu'un d'autre?
Exactement.
Parce que des fois, dans la désorganisation, l'émotivité, c'est pas facile.
C'est beaucoup de gestion, là.
Puis si tu réussis à partir, t'es dans quel état d'esprit,
oui,
quand t'es pas là?
Absolument.
Parce que là, tu te sens loin, tu te sens-tu coupable de pas être là parce que t'es supposé être là 24-7 aussi? Ça fait partie des points qui revenaient. Le 24-7, la charge mentale,
oui,
qui est énorme. Faut trouver des solutions, faut soutenir les différents organismes que tu as nommés aussi, avec plus de fonds, évidemment, pour qu'eux puissent avoir plus d'outils pour vous supporter. L'incertitude de la situation.
Oui.
C'est une question qui est rough.
Oui.
L'incertitude de la situation fait en sorte qu'il y aura malheureusement un après.
Oui.
On espère, on souhaite que ça soit le plus loin possible, mais en même temps que ça soit dans les meilleures conditions possibles.
Absolument.
Aussi pour Nicolas, évidemment. Est-ce que tu penses au après, des fois?
Tout le temps.
Puis comment t'appréhendes le après? Ou comment tu le vois, le après?
J'ai peur. Hey, la première chose que j'ai dit à mon psychologue, là, parce que moi, j'étais cherché un psychologue vite, parce
bravo.
Que je capotais, là,
bravo.
C'est ouais. que je pleurais. Je vais être toute seule.
Parce que...
Ça fait 22 ans qu'on est ensemble, tu sais.
Puis ça occupe tout ton temps aussi,
ben,
en ce
on
moment.
On n'a pas eu d'enfant parce que, bon, bref, là, ça, c'est une autre histoire, c'est l'infertilité. Mais tu sais, c'est ma vie. Notre vie, on l'a construit ensemble. Mm. Fait que là, c'est comme tout ça qui part. Tu sais, la maison, tout, tout, tout. Puis tu veux pas flusher la vie avec la personne que tu as. Tu veux penser à cette personne-là toute ta vie. Mais d'un autre côté, tu sais, il y a comme un instinct de survie. Fait que on y pense. On essaie de pas y penser tout le temps. Mais c'est sûr que la mort, autant que moi que Nicolas, c'est quelque chose qui fait peur puis à laquelle on pense. Mais en même temps, j'ai jamais vécu le décès de mon conjoint de 22 ans. Tu sais. Mm.
Est-ce que Nicolas t'en parle aussi?
Oui, lui, il a peur de ça beaucoup. La notion de durée, de pronostic, il ne veut pas le savoir. Puis okay. C'est correct, parce que lui, c'est pas une question de déni, tu sais, comme il dit, je sais ce que j'ai, là. En même temps, il souffre tellement qu'il voit bien, là, tu sais, sa maladie. Mais, tu sais, lui, c'est dire, je vais profiter de chaque journée en essayant de me concentrer sur ce qui va bien aujourd'hui puis ce que je peux faire. Parce que si on me dit, moi, qu'il me reste tant de semaines, tant de mois, tant d'années, mais ça va encore plus m'angoisser parce que déjà que je le sais.
Que tu vas encore moins en profiter.
Ouais. Le
mais là,
tout le
ça
temps.
Fait quand
exact.
Même en sorte que... Puis je ramène ça à toi parce que c'est important pour moi
oui,
aujourd'hui
vas-y.
De ramener ça à toi, OK? C'est ça le but.
Oui.
Mais c'est toi qui as cette charge mentale-là toute seule. De
je
toi
sais,
savoir
moi,
que il y a un temps
sais.
De mois. Puis oui, c'est ça. Fait que là, tu supportes ça toute seule.
Oui.
Puis est-ce que Nicolas, des fois, il te dit, après, quand je serai pas là... J'aimerais ça que
oui.
tu déménages, j'aimerais ça que tu
oui.
rencontres quelqu'un d'autre, j'aimerais ça que tu vives ta vie, ou est-ce qu'il n'est pas capable de te parler de ça du tout?
On en parle, mais c'est difficile. T'sais, lui, il a tellement peur qu'on l'oublie. C'est sa grande peur. Mm. C'est une des raisons pour laquelle on s'est affiché aussi. Je disais, on ne t'oubliera pas, man, on ne t'oubliera pas. Là.
Mm.
Il a peur de ça parce qu'il perd le contrôle. Là, en ce moment, il perd le contrôle sur sa vie, sur son corps. On a discuté. De choses, parce que, tu sais, surtout à l'automne passé, il y a eu des complications, puis tu sais, la façon que les médecins nous parlaient, là, on braillait les deux, puis ils étaient en train de me parler à l'urgence de comment ils voyaient ça, tu sais, ses funérailles, tout ça, là, parce que là, on pensait que, tu sais, la façon qu'on nous parlait, ça ne ressortirait jamais de
on
là.
Était là, là.
Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, j'ai des projets, tu sais.
Oui.
Puis... en même temps, la vie, elle sera plus la même, fait que, tu sais, je...
Puis, tu sais, faire des projets pendant que tu es encore en amour, puis tu es encore proche de quelqu'un qui est malade, c'est pas normal pour
non,
le cerveau.
C'est ça, exactement.
Les gens
ça.
Autour de vous aussi. Puis, moi, je comprends ça, mais je sais que ça peut être très, très difficile. Des fois, il y a un malaise. Est-ce que les gens autour de vous, ça a beaucoup changé la dynamique? Parce qu'il y en a qui avaient de la misère à faire face à on aime tellement ton chum, on t'aime tellement, mais de côtoyer la maladie, c'est pas facile pour nous. Fait qu'on s'éloigne, mais c'est pas parce qu'on vous aime pas.
Bien, c'est sûr que tu sais, ça change les relations amicales, tu sais, dans la famille, tout ça. Puis c'est pas. Tu sais, je parle de les relations en général, là, pas pour viser personne. Là. C'est sûr que chacun va y aller avec ses limites, avec son bagage, avec son coffre à outils. Puis, tu sais, ce qui est capable de supporter également, tu sais. Puis, tu sais, j'ai découvert quelque chose en faisant des... Parce que je m'informe, là. Je savais même pas que ça existait, le cancer ghosting. Puis,
okay.
C'est vraiment répandu.
Ben
il y a
oui.
des livres là-dessus. Puis, tu sais, c'est vrai, on l'a vécu. Il y a des amis qui ont complètement perdu, là, tu sais, partie de la carte, là, tu sais, qui peuvent avoir des conversations avec Nicolas régulièrement. Puis là, on n'entend plus parler.
Bien, c'est pour ça que je pose la question, parce que c'est quelque chose que j'ai entendu
ouais,
souvent.
Ça existe.
Pour des bonnes et des mauvaises
exact.
Raisons, mais il y en a qui ne sont pas capables
exactement.
De supporter, qui ne sont pas bien.
C'est ça. Puis il y en a d'autres, je ne sais pas. Tu sais, c'est comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça, fait que j'ai de la difficulté à concevoir. Mais en même temps, de l'autre côté, en le vivant de l'intérieur, je pense tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne le vois pas. Mon père a eu un cancer, tu sais, avant. Puis là, avec du recul, je me rends compte, avec ce que je vis maintenant, je me dis, hey, j'étais pas assez là.
Je comprends.
Tu sais, j'aurais dû
ouais.
l'être plus.
Oui. Mais c'est parce que là, en même temps, tu sais, pour... te réconforter peut-être un peu dans ce commentaire-là, c'est que là, en ce moment, t'es tellement là,
ouais.
t'es tellement intuit que ça te donne peut-être l'impression que t'es aux antipodes par rapport à la situation
ouais.
que t'as vécu avec ton père, mais il y a... C'est difficile à dire ça, mais il y a cette espèce d'équilibre-là mm. entre les deux où là, t'as vraiment pas le choix d'être à temps plein là-dedans.
Ah, pas le choix.
T'es en arrêt de travail, mais je vais quand même donner cette image-là. C'est ta job à temps plein. T'es en arrêt de travail parce que tu t'avais besoin d'être en arrêt de travail. Puis, je comprends très, très bien ça. Quand on communiquait ensemble hier, je te disais que ça avait été la même chose avec ma copine, moi aussi. Dès qu'on a eu la nouvelle, jusqu'à la fin de mes traitements, ma copine aussi est en arrêt de travail. Puis, situation qui est peut-être différente parce que on avait deux jeunes enfants. Mm-hmm. À ce moment-là, les gars étaient très, très jeunes. Fait qu'elle s'est rapidement tournée vers les enfants puis s'occuper des kids aussi.
Évidemment.
Évidemment, mais c'est normal pour la personne proche d'être en arrêt de travail. Là. Tu peux pas faire comme « Ah, ben parfait, on va passer à travers ça, mais je vais continuer à faire mon 9 à 5 du lundi au vendredi. »
Je serais plus devant toi là, maintenant, je te le garantis.
Ben c'est sûr. La santé mentale aurait flanché puis la santé physique aurait suivi aussi. Ouais. Puis c'est un des trucs que t'as mentionné aussi ça, dans ton texte, parce que tu viens d'en parler du cancer ghosting. Vous décidez de vous afficher sur les réseaux sociaux. Mais à partir de là, monsieur, madame, tout le monde qui vous suit peut prendre la décision de ne pas la regarder, la publication.
Ben oui.
Puis je vais être honnête avec toi, puis je pense que c'est le meilleur exemple que je peux donner. Ça m'arrive des fois que vous arrivez dans mon feed, puis c'est très personnel, mais par rapport à ce que j'ai vécu, je fais oh, non, aujourd'hui,
ça tente pas d'aller là.
Je suis pas assez solide pour aller
c'est
là,
correct.
Ça me tente pas. Je suis en vacances, je passe un bon moment, ça me tente pas de m'embarquer là-dedans, de vivre avec vous votre situation ou de se projeter encore. Mm-hmm. Puis ça, c'est correct aussi.
Absolument.
De le faire puis de s'écouter. L'enjeu, par contre, qu'on a par rapport à la discussion de ce matin, c'est que les proches aidants, bien, il y a peu d'écoute encore.
Mm-hmm.
Vous avez peu d'écoute. On parlait tout à l'heure du « après ».
Oui.
Est-ce que tu as un cercle autour de toi? Est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui seront là quand les armes vont tomber?
Je sais pas. Tu sais, je sais pas. Puis je sais pas, je vais avoir besoin de quoi non plus.
Donc, difficile de dire si tu as déjà des ressources disponibles,
ouais,
tu ne connais pas déjà tes besoins.
Est-ce que je vais vouloir être toute seule? Est-ce que je vais vouloir, tu sais? J'ai de la difficulté à répondre à cette question-là.
Qu'est-ce qu'on peut faire, mettons, en terminant, d'après toi, pour comme société, pour aider davantage nos proches aidants?
Mais je pense qu'il faut s'outiller, tu sais, parce qu'on n'est pas outillé pour ça. Puis d'ailleurs, si j'ai une lecture à proposer, je pourrais la donner après, pour, si vous voulez mettre le lien. Là, je suis tombée là-dessus, c'est un livre qui s'appelle « Être là, consoler et soutenir une personne malade ». Qui a été écrit par Delphine Rémy. Puis, tu sais, il y en a plein des livres là-dedans. Mais c'est basé sur une expérience, dans ce cas-ci, oncologique. Puis, ça s'appuie sur des centaines de témoignages de personnes malades, de proches également, puis des professionnels. Puis, tu sais, donne des conseils sur des choses. Qu'est-ce que c'est mieux de ne pas dire? Parce que oui, tu sais, ça, puis j'en ai fait une vidéo là-dessus, tu sais, de quoi ne pas dire à une personne. Puis, tu sais, c'est les mêmes affaires. Il y en a plein là, sur TikTok puis sur Instagram, puis c'est les mêmes choses qui reviennent. Puis, tu sais, des phrases toutes faites que c'est pas par mauvaise intention, mais c'est juste que si tu veux vraiment être dans une posture bienveillante pour la personne aidante ou la personne atteinte, bien, tu sais, d'être plus à l'écoute, de valider. Donc, vraiment, ce livre-là, c'est des conseils pratiques, des phrases que tu pourrais dire pour soutenir la personne, tu sais, puis si tu veux vraiment être dans une posture aidante. Puis, comme tu le disais, il y a des personnes qui ne veulent pas être dans cette posture-là pour différentes raisons aussi, puis ça, en même temps, c'est correct.
Mais c'est correct de tendre la perche à quelqu'un d'autre aussi. Ça, vous avez le droit
de faire ça.
Tu sais, moi, j'ai le droit de faire... Pascal, je sais que Noémie... J'ai vraiment un feeling qu'elle va pas bien. Colin, moi, je suis pas capable d'aller là. Je suis pas assez solide pour aller
c'est
là.
Ça.
J'ai peur de pas dire les bons... Je veux pas te mettre ça dans ta cour nécessairement, mais toi, d'habitude, t'es bonne là-dedans. Prendrais-tu des nouvelles de Noémie?
Mm-hmm.
Tu ferais-tu ça pour nous autres, pour le cercle d'amis? Te sens-tu assez forte pour le faire? Puis toi, t'aurais le droit de dire... Moi non plus. Je vais demander à Alex, voir. Mais c'est correct de vous relayer comme ça aussi.
Exact.
Parce que, sachez une chose, c'est que...
C'est lourd en maudit comme réalité, là. Tu sais, je veux dire, c'est lourd.
Ben oui, puis c'est parce que le cercle d'amis, vous avez la chance de vous relayer autour du malade puis autour du prochain aidant. Le prochain aidant, il y a rarement quelqu'un avec qui il peut tag team puis prendre une petite pause pour aller se reposer puis se détendre un peu. Parce que même si vous avez l'opportunité de prendre une pause, il y a toujours ce hamster-là qui tourne dans votre tête. C'est omniprésent. Écoute, on a Chantal de Prochonco qui nous a texté, qui est là. Je voulais juste vous informer que j'ai créé l'organisme suite à mon expérience de proche aidante de mon chum depuis 12 ans. Merci d'avoir créé Prochonco. Bon courage à votre invité pour avoir accompagné ma petite sœur dans des circonstances similaires. J'ai une compréhension de son vécu. Je souhaite à son conjoint et elle-même la sérénité.